chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 23 et le titre sera « Le temps de Constantin ». Je montrerai maintenant les succès de la rédemption chrétienne depuis la chute de l'empire païen des Romains du temps de Constantin le Grand. Et pour nous faire une juste idée des grandes œuvres de Dieu, de même qu'afin de bien voir leur gloire, il sera nécessaire, comme dans les précédentes conseils, et de considérer non seulement le succès lui-même, mais aussi l'opposition qu'il a rencontrée. Premièrement, l'opposition, c'est donc Satan. Satan, le grand dragon roux, après une lutte acharnée avec Michel et ses anges, pendant près de 300 ans, fut entièrement battu et vaincu. Il fut en quelque sorte précipité des cieux sur la terre, et toutefois il ne cesse pas de faire opposition à la femme, à l'Église de Christ, au sujet de laquelle tout ce combat a eu lieu, mais il est toujours furieux. Il fait de nouvelles tentatives et il a recours à de nouveaux expédients. Le serpent, après qu'il a eu été précipité des cieux sur la terre, jeta de sa gueule de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de faire emporter par le fleuve. Donc l'opposition qu'il a faite à l'Église de Christ, elle fut principalement de deux genres. Elle consista soit à corrompre l'Église chrétienne avec des hérésies, soit en des tentatives de restaurer le paganisme. Après la destruction de l'Empire romain païen, Satan infesta l'Église avec des hérésies. Bien qu'il y a eu une œuvre de Dieu admirable en délivrant l'Église de la persécution des païens et en détruisant leur empire. Cependant, comme les jours d'affliction pour elle n'étaient pas encore à leur terme et que le temps de la prospérité n'était pas encore arrivé, la paix et la prospérité dont l'Église jouit du temps de Constantin furent de très courte durée, malheureusement. Les Arians apparurent bientôt après l'avènement de Constantin au trône. Ils niaient la doctrine de la Trinité, ainsi que la divinité de Christ et du Saint-Esprit, soutenant qu'ils n'étaient que de simples créatures. Voyez un peu, ils pensaient que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tout ce que la Bible nous montre comme étant très important, pour eux, c'était que des simples créatures. Et cette hérésie prévalut de plus en plus dans l'Église, et elle se répandit même comme un déluge, menaçant de tout renverser et de détruire l'Église, au point que, avant la fin du IVe siècle, la plus grande portion de l'Église chrétienne était devenue arienne. Quelques empereurs, successeurs de Constantin, furent ariens. aussi se trouvant le parti dominant et ayant l'autorité civile de leur côté, ils excitèrent une grande persécution contre la véritable Église de Jésus-Christ, de sorte que cette hérésie peut très bien être comparée à un fleuve sortant de la gueule du serpent, menaçant de tout renverser et d'entraîner la femme. L'hérésie pélagienne apparut au commencement du siècle suivant. Elle commença avec un certain Pélage, qui est né en Angleterre. Son nom anglais était Morgan. Lui, il nia le péché originel tout simplement. Il nia exactement, en plus, l'influence du Saint-Esprit de Dieu dans la conversion, et il a maintenu le pouvoir du libre arbitre et plusieurs autres choses de ce genre. Son hérésie, pendant un temps, a beaucoup troublé l'Église. Le principal adversaire de Pélage, c'était Augustin. Augustin qui avait écrit en faveur de la foi orthodoxe. Ensuite, Satan a fait encore opposition à l'Église en cherchant à restaurer le paganisme. La première tentative a eu lieu par le moyen de Julien l'Apostat. Julien était le neveu de Constantin le Grand. Quand Constantin mourut, il laissa son empire à ses trois fils, et après leur mort, Julien l'Apostat régna à leur place. Il avait passé pour chrétien, comme il y en a aujourd'hui, mais il abandonna le christianisme pour le paganisme. Et c'est pourquoi il a été appelé l'Apostat. Quand il monta sur le trône, il a fait tous ses efforts, il a eu recours à tous les moyens possibles pour renverser l'Église chrétienne et pour établir le paganisme dans l'Empire. Il destitua les magistrats chrétiens et en établit de païens à leur place. Il rebâtit les temples païens, rétablit le culte des idoles et il est devenu un grand persécuteur des chrétiens. Il avait l'habitude d'appeler Christ le Galiléen, et cela, vous l'avez compris, pour l'insulter. Or, il fut tué d'un coup de lance dans ses guerres contre les Perses. Et quand il s'est vu mortellement blessé, et croyez-le ou pas, il a rempli ses mains de son sang, il l'a jeté en l'air et il s'est écrié « Ô Galiléen, tu as vaincu !» Les théologiens pensent généralement qu'il a tout de même commis le péché irrémissible. Satan essaya aussi de rétablir le paganisme dans l'Empire romain d'une autre manière, c'est-à-dire au moyen des invasions et des conquêtes des nations païennes. Car dans ce temps-là, il y avait les Goths, les Vandales et d'autres nations barbares du Nord qui ont envahi l'Empire romain et ils ont fait de grandes conquêtes. Ils ont ravagé même l'Empire. Et dans le 5e siècle, ils ont même réussit à prendre Rome, et ils finirent par conquérir la moitié occidentale de l'Empire, qu'ils se partagèrent après en avoir pris possession. Et deuxièmement, je montrerai maintenant le succès qui a été obtenu par l'Évangile dans ce temps-là, et cela malgré cette terrible opposition. J'observerai que l'opposition de Satan dans ces choses ne réussit tout de même pas. Les hérésies qui prévalurent pendant un temps disparurent bientôt et l'orthodoxie fut rétablie. Pendant ce temps-là, l'Évangile se répandit parmi plusieurs nations barbares sur les confins de l'Empire romain du temps de Constantin. L'Évangile se répandit en ce temps-là abondamment dans les Indes orientales, surtout au moyen du ministère d'un certain Fromentius. Un grand nombre d'Ibériens furent convertis à l'Évangile par une femme chrétienne très distinguée pour sa piété qu'ils avaient faite prisonnière. Il est parlé de diverses autres nations païennes en dehors de l'Empire romain, chez lequel des multitudes furent amenées à l'Évangile par les instructions et par les exemples d'esclaves qu'ils avaient pris dans la guerre. Environ en l'an 372 de Jésus-Christ. Eh bien, l'Évangile en ce temps-là, en l'an 372, se répandit parmi les habitants barbares de l'Arabie et chez quelques nations du Nord. Un prince goth, en particulier, est devenu chrétien vers ce temps-là, et beaucoup de ses sujets avec lui. Vers la seconde moitié de ce siècle, l'Évangile se répandit encore parmi les Perses et parmi les Scythes, un peuple barbare mentionné par l'apôtre. Barbare Scythes, a-t-il dit l'apôtre, les barbares Scythes. Notez Colossiens chapitre 3, verset 11. Après cela, vers l'année 430, il y a eu une remarquable conversion des Bourguignons à la foi chrétienne. Alors aussi, l'Évangile a commencé à se répandre en Irlande, et les Irlandais, qui jusqu'alors avaient été païens, commencèrent à recevoir la foi chrétienne. Donc, voyez-vous, les Irlandais ne sont pas seulement connus pour leur bonne bière Guinness et leur whisky, mais en ce temps-là, il y en a des milliers qui sont devenus chrétiens. Environ vers le même temps, il se répandit encore chez certains peuples barbares en Écosse et ailleurs la sainte parole qui était acceptée. Dans le siècle suivant, Sattus, roi païen, qui gouvernait la Colchide, renonça au paganisme et embrassa la religion chrétienne. On rapporte que plusieurs autres nations chrétiennes renoncèrent au paganisme vers le même temps pour embrasser la foi chrétienne véritable. J'en viens maintenant aux jours les plus ténébreux et les plus tristes que l'Église chrétienne ait jamais vu. La véritable Église, pendant ce temps-là, fut pour plusieurs siècles dans une profonde obscurité, comme la femme dans le désert. Elle fut presque entièrement cachée au regard. Satan avait fait de grandes choses auparavant contre l'Église chrétienne, mais tous ses efforts avaient été vains. L'archange Michel et ses anges avaient remporté une victoire éclatante. Combien fut terrible son opposition aussi longtemps que dura l'empire païen, et quel ne fut pas l'éclat de la victoire et du triomphe que Jésus-Christ a remporté sur lui du temps de Constantin. Dieu prépara alors la voie pour une victoire plus éclatante encore. Il lui permit de recouvrer sa force et de faire tout ce qui était en son pouvoir. Un long délai lui est accordé pour former ses plans, pour établir ses intérêts et pour fortifier sa cause. Dieu lui a permis de pousser très loin la réalisation de ses plans, d'engloutir presque son Église et d'exercer dans le monde un pouvoir presque sans contrôle avant que Jésus-Christ remporte la victoire définitive, et qu'il ruine entièrement le royaume, donc de l'ennemi. C'est ce qu'il fera quand il détruira l'Antéchrist et qu'il remportera une victoire éclatante sur Satan après qu'il aura fait tout son possible par ruse et après qu'il se sera élevé au-dessus de tout et aura agi avec fierté. Les deux grandes œuvres du diable dans ce temps-là contre le royaume de Jésus-Christ sont l'établissement d'un royaume antichrétien et de celui de Mahomet. Les deux étaient dans l'Empire romain, celui de la papauté dans l'Occident et celui de Mahomet dans l'Orient. Comme les Saintes Écritures nous l'enseignent dans le livre de la Révélation, donc de l'Apocalypse, la victoire de Christ à la veille des heureux jours de l'Église consistera surtout à détruire ces deux royaumes. Et si remarquable, si vous voulez remarquer en peu de mots, chers amis, comment Satan a élevé et a maintenu ces deux grands royaumes dans son opposition contre le royaume de Christ. Alors qu'il plaisait au pape d'excommunier un prince, tous ses sujets étaient immédiatement dispensés de lui obéir et obligés de ne plus le reconnaître sous peine d'excommunication. Il y a plus que cela. Il était permis à tout homme de le tuer en quelque lieu que ce fût. De plus, on sait que le pape avait le pouvoir de damner les hommes à son gré, car quiconque mourait excommunié par lui était considéré comme damné. Plusieurs empereurs furent donc déposés, chassés et périrent misérablement. Et si le peuple d'un État ou d'un royaume ne lui plaisait pas, eh bien il avait le droit de mettre le pays en interdit. Croyez-le ou pas, si vous pouvez faire des recherches sérieuses, vous découvrirez que je ne vous mens dans aucun sujet. C'était donc une sentence prononcée par le pape qui invalidait toutes les cérémonies religieuses dans le pays contre lesquelles il était prononcé. Le baptême, le sacrement, les prières, la prédication, les pardons étaient de nulle valeur aussi longtemps que l'interdit n'était pas levé. Le peuple se croyait donc dans une position misérable et damnable, de sorte que l'interdit du pape était redouté autant qu'une pluie de feu et de soufre qui serait tombée du ciel. Et pour satisfaire sa colère contre un prince ou contre un peuple qui lui déplaisait, d'autres princes avaient à supporter de grandes peines et se mettre dans de grands embarras. Et en même temps que le pape et son clergé dépouillèrent le peuple de ses libertés et des privilèges ecclésiastiques et civils, ils lui enlevèrent aussi ses biens et ils mirent la chrétienté, donc on peut dire à sec d'argent. Ainsi, ils pouvaient remplir leur coffre fort de la plus grande partie de toutes ces richesses au moyen de grands revenus qu'ils se procurèrent en faisant payer pour des pardons et des indulgences, pour le baptême et l'extrême onction, les délivrances du purgatoire et une centaine d'autres choses. Pendant ce temps-là, la superstition et l'ignorance prévalurent toujours davantage. Et peu à peu, on enleva les saintes écritures des mains du peuple tout simplement pour mieux favoriser les desseins antiscripturaires du pape et du clergé, et au lieu de propager les connaissances parmi le peuple, ils eurent soin de favoriser l'ignorance. C'était parmi eux une maxime reçue que l'ignorance est la mère de la piété et les ténèbres de ces temps étaient si épaisses que le flambeau de la science fut presque éteint dans le monde. Les prêtres eux-mêmes étaient, pour la plupart, d'une extrême ignorance. Ils ne connaissaient guère que leurs ruses destinées à opprimer et à tyranniser les âmes du peuple. La superstition et les persécutions de l'Église romaine allèrent toujours en empirant, et cela jusqu'au jour de la Réformation, et tout le monde chrétien fut entraîné dans cette grande défection, excepté les restes de l'Église chrétienne dans l'Empire d'Orient, qui avait été complètement bouleversé par les Turcs. L'Église grecque et quelques autres furent aussi plongés dans d'épaisses ténèbres et dans de grossières superstitions. L'empire de Mahomet, puissant et étendu, fut aussi fondé par Satan contre le royaume de Christ. Il établit celui-ci dans l'empire d'Orient, tandis qu'il avait établi la papauté dans celui d'Occident. Mahomet est né en Arabie en l'année 570-570 après Jésus-Christ. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge d'environ 50 ans, il commença à annoncer qu'il était le grand prophète de Dieu et il se mit à prêcher la nouvelle religion qu'il venait d'inventer et dont il devait être adoré comme étant le chef après Dieu. Il publia son Alcoran, qu'il prétendit de l'avoir reçu de l'ange Gabriel. Comme il était un très habile homme, en possession d'une gigantesque fortune, et qu'en outre il vivait au milieu d'un peuple très ignorant et très divisé d'opinion dans les questions religieuses, au moyen de la promesse d'un paradis sensuel, comme on le dit pour les kamikazes, et par la ruse, il s'est fait un certain nombre de partisans. Il se mit donc à leur tête comme étant leur prince. Il propagea sa religion par l'épée et déclara qu'on méritait le paradis en combattant pour elle. Grâce à ses moyens, ses partisans s'augmentèrent et firent la guerre jusqu'à ce qu'ils eurent conquis les pays environnants, et ils allèrent ainsi en augmentant, et ils ouvrirent bientôt une grande, on peut dire, ils ont couvert une grande partie du monde. Les Saracens furent donc de ces premiers partisans. Ils étaient un peuple originaire d'Arabie, où vivait Mahomet. Là, il avait vécu vers les années 700. Ils ravagèrent l'Empire romain. Ils envahirent plusieurs pays appartenant à l'Empire et continuèrent pendant longtemps leur conquête. Alors les Turcs, qui étaient d'abord distincts des Saracens, sont devenus les disciples de Mahomet et ont conquis tout l'Empire d'Orient. Leur empire commença environ vers les années 1296 après Jésus-Christ. Et ils commencèrent à envahir l'Europe en 1300. Ils prirent Constantinople et ils sont devenus par ce moyen les maîtres de tout l'Empire d'Orient vers les années 1453. Ainsi, toutes les villes et les pays où se trouvaient ces fameuses églises dont il est parlé dans le Nouveau Testament, comme Jérusalem, Antioche, Éphèse, Corinthe, etc., sont devenues soumises aux Turcs. Et les autres chrétiens, dans ces parties du monde, qui composent principalement l'Église chrétienne grecque, sont dans un misérable état d'oppression sous la domination des Turcs. On les traite avec barbarie et avec beaucoup de cruauté, et la plupart sont devenus très ignorants et superstitieux. Ainsi, j'ai démontré quelle grande chose Satan accomplit pendant cette période-là contre le royaume de Christ. Chers amis, j'en viens maintenant à montrer comment l'Église de Jésus-Christ fut préservée au milieu de ces épaisses ténèbres. Il faut observer que vers la première partie de cette période, quelques nations chrétiennes résistèrent pendant longtemps avant de se conformer à la corruption et aux usurpations de l'Église de Rome. Quand le culte des images fut d'abord établi dans les églises, il rencontra de la part de beaucoup de monde une opposition qui se prolongea très longtemps. Il en fut de même à l'égard d'autres erreurs de l'Église de Rome. Ceux qui se trouvaient le plus près de Rome, on n'avait pas le choix de se soumettre entièrement, mais d'autres qui se trouvaient un peu plus loin furent longtemps sans pouvoir se décider à plier sous leur joug. Ce fut particulièrement le cas d'une grande portion des églises d'Angleterre, d'Écosse et de France, qui avaient maintenu l'ancienne pureté de doctrine et de culte beaucoup plus tard que beaucoup d'autres pays qui étaient plus rapprochés du siège principal de la papauté. Dans tous les âges de cette époque ténébreuse, il y a eu toujours, dans les diverses parties de la chrétienté, quelques personnes qui ont rendu témoignage contre la corruption et contre la tyrannie de l'Église de Rome. Il y a eu un peuple particulier qui était appelé les Vaudois, qui ont vécu séparés du reste du monde et qui rendaient constamment témoignage contre l'Église romaine pendant toute cette période des ténèbres. Ils habitaient les cinq vallées du Piémont, pays très montagneux, situé entre l'Italie et la France. Ils étaient environnés des Alpes, montagnes élevées, et qu'il n'était pas toujours possible de traverser, ou si ces vallées étaient-elles presque inaccessibles en ce temps-là. Cette peuplade vécut là pendant plusieurs siècles, séparée de tout le monde et sans avoir presque aucun rapport avec les autres peuples. Ils servirent Dieu dans la pureté du culte primitif et ne se sont jamais soumis à l'Église de Rome. Ce furent là, en particulier, on peut dire ces vierges qui ne se souillèrent point, tandis que d'autres se sont prostituées, mais ils se conservèrent purs pour Jésus-Christ seul. Leur doctrine et leur culte sont les mêmes que dans les églises protestantes, et d'après l'aveu même des auteurs romains, ils étaient un peuple remarquable par la sévérité de ses mœurs, par sa charité et beaucoup d'autres vertus chrétiennes. Ils ont vécu dans une grande pauvreté dans cet affreux pays, mais ils s'y se sont soumis plutôt que de participer à la grande corruption du reste du monde. Comme ils vivaient dans un coin si reculé, ils furent longtemps sans être remarqués, mais voilà, on finit par les découvrir. Alors leurs ennemis ont commencé à marcher contre eux avec des puissantes armées et les ont traités avec la plus grande inhumanité, massacrant sans pitié les hommes, les femmes et les enfants. Ni âge, ni sexe pouvaient donc aider. Ils les persécutèrent presque sans relâche pendant plusieurs siècles, ce qui fit que plusieurs ont quitté les vallées du Piémont. Ils se sont enfuis dans toutes les parties de l'Europe, emportant avec eux leur doctrine qui leur attira beaucoup d'adhérents. Leurs persécuteurs, avec toute leur cruauté, n'ont donc pas réussi à les anéantir, à anéantir l'Église véritable de Dieu. Ainsi s'accomplit cette parole qui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vers la fin de ces temps ténébreux, plusieurs théologiens distingués se sont levés pour défendre publiquement la vérité et de rendre témoignage contre les corruptions de l'Église de Rome. Le premier et le principal fut un nommé Jean Wycliffe, ou Wycliffe, ça dépend tout comment on le prononce, un fameux théologien anglais qui vécut environ 150 années avant la Réformation. Il s'opposa fortement à toute la religion romaine. Il enseigna les doctrines que les réformateurs devaient prêcher plus tard, et il eut beaucoup de disciples en Angleterre. Il fut très persécuté pendant sa vie, toutefois, il mourut en paix. Alléluia. Plus tard, ses persécuteurs ont même déterré ses os pour les brûler. Ses disciples restèrent très nombreux en Angleterre jusqu'à la Réformation et ils furent cruellement persécutés et des multitudes ont péri uniquement pour la cause de leur foi véritable en Jésus-Christ. Disons pour terminer notre étude d'aujourd'hui, John Wycliffe a eu beaucoup de disciples, non seulement en Angleterre, mais aussi dans d'autres parties de l'Europe, où ses livres ont pu pénétrer, et particulièrement en Bohême. De ce nombre furent deux théologiens distingués qui se nommaient Jean Hus et Jérôme, théologiens de Prague, ville capitale de la Bohême. Ils firent une très forte opposition à l'église de Rome et beaucoup de personnes les sont suivies. Ils furent tous les deux, écoutez bien, ils furent tous les deux brûlés vifs à cause de leur foi en Jésus-Christ, et cela par ordre du concile de Constance. Leurs disciples furent cruellement persécutés en Bohême, mais jamais complètement extirpés jusqu'à la Réformation. Chers amis, nous allons prier ensemble, mais j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose d'important pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre encouragement. Écoutez bien. Seigneur, nous t'aimons et nous te louons. Tu es notre joie et tu es notre récompense la plus haute. Souvenez-vous que l'amour et la puissance, c'est l'amour qui est la puissance qui transforme le monde. Pas d'amour qu'on porte seulement au Seigneur, ou l'amour qu'on témoigne à quelques êtres bien-aimés, mais l'amour qui va à tous les hommes, aux publicains, aux pécheurs et même aux prostituées. C'est cela, l'amour agapé. C'est la seule arme par laquelle le péché puisse être expulsé. Appliquez-vous à expulser le péché par l'amour. Et puis, par la louange, oui, la louange, elle débarrasse de la dépression. Elle débarrasse du découragement et de tout sentiment d'impuissance ou de défaite. La louange est le meilleur moyen de reconnaître les bienfaits du Seigneur. Ce n'est pas souvent qu'on renouvelle un don ou un paiement lorsque on n'a reçu aucun accusé de réception, ni aucun remerciement. La louange de celui qui chante sa reconnaissance pour les bienfaits que le Seigneur offre, tout tient donc ouverte la voie par laquelle il pourrait les lui renouveler. Apprenez donc, comme les enfants, à dire merci. Faites-le d'abord, s'il le faut, par politesse, pourquoi pas, sans peut-être éprouver toujours un sentiment de véritable gratitude. Faites-le jusqu'à ce qu'un tressaillement de joie, de saint respect et de reconnaissance accompagne votre parole. Ne vous attendez pas à éprouver forcément ce que éprouvent les autres. Persévérez dans la voie d'abord aride de l'obéissance, tout simplement. Votre persévérance sera récompensée le jour où vous parviendrez à la source, oui, à la source de la vie qui chante. Ah oui, réjouissez-vous en Jésus-Christ et dans toute la mesure du possible, répandez la joie autour de vous. Et maintenant, prions ensemble. Qui déliera nos lèvres pour te prier, Seigneur? Qui pénétrera nos cœurs d'une vive et sainte reconnaissance? Qui nous donnera le sentiment et le repentir des fautes que nous avons commises durant le jour qui finit? Qui nous fera tomber avec espérance et foi aux pieds du Sauveur de nos âmes? Qui fera naître en nous l'esprit de prière et de supplication? Ô notre Dieu, toi seul peux agir en tes faibles créatures. Toi seul peux les attirer à toi par sa grâce infinie. Nous le reconnaissons humblement. Nous implorons ton secours et l'assistance de ton Saint-Esprit, qu'il prie lui-même en nous, qu'il vienne nous convaincre de péché, de justice et de jugement, qu'il nous soulage dans nos faiblesses, qu'il parle à nos âmes de pardon et de paix, qu'il nous assiste dans l'œuvre importante de l'examen de nous-mêmes. Ô Seigneur, accorde-nous cette précieuse faveur. Accorde-nous aussi celle de pouvoir te prier pour nos semblables et en particulier pour les êtres que nous aimons, pour les membres de nos familles, pour nos amis. Donne à chacun une bénédiction qui réponde à ses besoins. Aux uns, la patience. Aux autres, la persévérance. À tous, la foi. La foi qui est la seule source de toutes les vertus chrétiennes. La foi est le seul refuge pour l'âme. C'est le seul fil invisible de communication avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous te supplions d'accorder, non seulement à ceux qui nous sont chers, mais aussi à tous les hommes, nous te supplions de nous l'accorder à nous-mêmes, et nous te le demandons, Seigneur, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et, chers amis, je vais vous mettre maintenant quelques chants d'un très lointain passé. Figurez-vous, j'ai fait ces enregistrements avec un appareil à bande. Il n'y avait ni cassette, ni CD en ce temps-là. En 1962. Alors évidemment, la qualité n'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais il y a l'Esprit Saint qui va vous donner quelque chose dans votre âme. Et pour que je n'oublie pas, je dois vous avouer que normalement je peux presque plus parler bientôt, et j'ai prié que le Seigneur fasse un miracle pour que la voix puisse être assez audible pendant que je fais cette étude pour vous. Et je crois que ça a fonctionné, et je le sais, jusqu'au bout. Et je dis, merci Seigneur, je ne le mérite pas, mais tu l'as fait par amour, par charité, par bonté, par compassion. Merci Seigneur. Et maintenant, essayons si ça fonctionne. Come together.
Tells us to continually offer praise as our sacrifice to God, as the fruit of our lips that glorifies His name. All through the Bible, God teaches His people to praise Him together and joyfully. We're told the Lord inhabits the praises of His people, and that the joy of the Lord is our strength. Oh, there's power in praise. He doesn't want us to be disorderly, but He does want us to be free, to look up into His face and tell Him we love Him. This is our ministry to the Lord. We're going to sing Psalm 47:1. And the second time around, we want everybody to join in. It goes like this.
Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of praise.
Now we raise our hands to the Lord and sing.
Hosanna, Hosanna. Shout unto God with a voice of triumph. Praise Him, praise Him. Shout unto God with a voice of praise.
Everybody take a deep breath and join in.
Clap your hands, all you people, shout unto God with a voice of triumph. Clap your hands, all you people, shout unto God with a voice of praise. Hosanna, Hosanna, shout unto God with a voice of triumph. Praise Him, praise Him, shout unto God with a voice of praise.
Hey, now why don't we make it around? Let's start with this side over here.
Clap your hands, all you people, clap your hands.
I like praising God, don't you? He's done so many wonderful things. Why don't we give Him a clap offering? Hallelujah. That's a word that means the same thing in every language. Just praise God.
Hallelujah. His blood avails for me.
Everybody now.
Hallelujah. His blood avails for me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and woe. Jesus and his love.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. That the ones to him belong, they are weak, but he is strong.
Hallelujah, his blood avails for me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
My Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My precious Redeemer, my Savior art thou. If ever, oh, if ever I love thee, my Jesus, it's now.
In love, the fellowship of kindred minds, it's like to that above.
Shall we gather at the river where bright angels feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God?
Hallelujah, his blood avails for me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
What is it the Bible says about worshiping the Lord in the beauty of holiness? I know that Paul says, I would that all men everywhere would pray, lifting up holy hands unto the Lord. Let's all worship our holy God together.
Holy, 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 Lord God Almighty. And we lift our hearts before you as a token of our love. Holy, 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 holy.
Blessed to be your.
And we lift our hearts before you as a token of our love. Hallelujah.
Jesus said, "By this shall all men know that you're my disciples, if you have love one for another."
Come together, come together.
Let no difference grow between you, let your light shine.
Hallelujah.
Let his spirit flow between you, let your light shine.
Let it shine, shine, shine. Come on and let your light shine. Let it shine, shine, shine. Come on and let your light shine.
Come together.
Show our love to one another by sharing one another's problems and sorrows, and by sharing the gifts and the goodness of God with each other. So whatever Jesus has given you, he's given it to you for you to share with others in his name.
Come